C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 20 janvier, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors oui, une bonne quantité de neige un peu partout sur le territoire de la grande région de Montréal, ça continue. Faible neige, intermittente, un petit peu de poudrerie par endroit. Vous avez vu, Marc, avec la 440, des problèmes de circulation aussi qui s'additionnent ce matin. Un 2 à 4 cm de plus, les vents jusqu'à 50 km/h et maximum donc autour de moins 1 pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, ça demeure couvert avec des températures autour de moins 7 degrés. Et pour la fin de semaine, samedi, généralement nuageux, quelques flocons avec des températures autour de moins 4. Et puis dimanche, 1, 2, 3 cm de neige de façon intermittente et un maximum prévu autour de moins 1 degré. Ce matin, je vais commencer avec cette nouvelle qui devrait nous amener vers une très grande réflexion concernant le respect, la dignité, la douleur et la souffrance pour les patients qui se trouvent dans les hôpitaux du Québec. C'est une lettre ouverte qui est publiée ce matin dans La Presse par la fille de Robert Bourassa, ancien premier ministre du Québec. Michel Bourassa, et elle raconte les derniers jours de la vie de sa mère, Mme André Simard, qui est décédée à l'âge de 90 ans. Les détails de la maladie ne sont pas précisés et de toute façon sont secondaires. Ce qu'on constate, c'est que Mme Simard avait clairement indiqué son intention, le moment venu en fin de vie, d'obtenir des soins palliatifs, des soins de confort. Elle s'est donc retrouvée à l'hôpital St. Mary's au 8e étage. Et ce qu'on comprend de ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'elle a beaucoup souffert et qu'on a tenté à plusieurs reprises, en demandant au personnel, en demandant aux médecins, de lui donner des soins palliatifs. Et on lui a répondu qu'on ne pouvait pas la transférer à l'unité des soins palliatifs. C'était pas un cas de cancer, que bref, c'était pas possible de lui donner la médication en question. Je vais vous dire une chose. T'essaies de comprendre pourquoi c'est comme ça. On ne le sait pas. Mais voilà une femme qui est en fin de vie, 90 ans, et qui a mal, qui souffre, et on dit à ses proches, c'est pas possible. Elle n'est pas au bon étage pour obtenir la médication en question. Ça a duré 3 jours. Et, pour reprendre l'expression de sa fille, ça a été un cauchemar. Ils se sont pognés avec le personnel aussi. Vous lisez les détails de sa lettre. Sa mère est dans une chambre à deux avec quelqu'un qui souffre de la COVID. Finalement, on l'envoie dans une chambre privée. La chambre n'a pas été nettoyée. Il y a une seringue. Il y a du matériel médical souillé sur le plancher. C'est dégueulasse. Puis elle n'a pas joué, sauf vers la fin, le fait que c'était l'épouse de l'ancien premier ministre. Et ça, ça amène... Et là, je vois des commentaires de spécialistes qui disent que c'est pas juste là, là. C'est comme une pratique, c'est comme si t'as pas le droit d'obtenir une certaine médication ou des soins palliatifs pour enlever la souffrance. Et vous le savez, la plupart des gens vont vous dire... C'est pas tellement la peur de mourir qui habite, c'est la peur de souffrir. Et on peut pas faire autrement de penser que Mme Simard a souffert pendant 3 jours inutilement, qu'on aurait pu la soulager et qu'elle serait de toute façon décédée. Alors, c'est à lire dans La Presse ce matin. Puisqu'on parle du réseau de la santé, là, je ne sais pas si la Maison des fous se porte bien, mais le dossier de Maisonneuve Rosemont. Là, d'abord, on a demandé aux infirmières du réseau, qui sont peut-être ailleurs, qui sont disponibles, des infirmières tout court qui auraient le goût de venir aider. Là, c'est un appel à « je contribue à Maisonneuve Rosemont », là. Parce que on a pris une série de mesures, vous le savez, on a parlé avec le PDG cette semaine, d'envoyer des patients ailleurs, de détourner des ambulances. Il y a eu cette fermeture de l'urgence. et on invite les patients qui sont pas des vrais cas d'urgence, toujours un peu particulier à dire, là, mais de pas venir. Puis ceux qui vont venir, on va les envoyer ailleurs, vers, par exemple, des groupes de médecine de famille. Ça, c'est première chose. Donc, on a vu cette prise de position hier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et on demande la collaboration de la population. Deuxièmement, on sait que c'est un hôpital désuet. On a annoncé la construction et la rénovation du nouveau Maisonneuve-Rosemont. Et c'est un projet qui était évalué à 2,5 milliards. Là, on apprend ce matin dans la presse que ça coûte trop cher, qu'avec les coûts, l'inflation, on est rendu à 4 milliards et plus. Et là, savez-vous quoi? Un an après avoir fait l'analyse financière du projet, on a chez les fonctionnaires décidé de reprendre le projet et d'avoir un projet, disons, moins gros, plus petit. On va rénover la partie la plus vieille de l'hôpital et que finalement, on devait ajouter 700 nouveaux lits dans un pavillon tout neuf. Mais on parle maintenant de 150-230. Je rappelle, là, on est dans un secteur qui est mal servi, qu'on manque de place, qu'il y a un déséquilibre. Puis là, on nous explique que finalement, ça va coûter trop cher. Alors qu'on a négligé cet hôpital-là pendant des années. Sérieusement, là. Puis là, politiquement, puis je vous le dis, c'est tout le temps pareil. Politiquement, d'un côté, on entend, oui, ça va se faire, puis Maisonneuve-Rosemont, c'est une priorité. Puis même encore, là, le cabinet du ministre, Christian Dubé, qui réagit en disant, on va procéder, puis la première pelletée de terre s'en vient, là, puis vous allez voir. Mais on ne dit pas qu'il faut mal gérer, mais est-ce qu'à 2,5 milliards, c'était une évaluation trop basse en partant par rapport aux besoins de la clientèle de l'Est de Montréal. Puis dernier point concernant la santé ce matin, c'est dans Le Devoir. Là, c'est tout le débat sur les cliniques privées qui peuvent et qui font, depuis la pandémie, des chirurgies pour le public. Je rappelle, on vous envoie dans ces cliniques, au 10-30, il y en a sur la Rive-Sud, également à Montréal, la clinique Rockland. Et là, on vous envoie là, puis vous ne payez pas, vous êtes opéré. Là, c'est assez bizarre parce qu'on lit dans Le Devoir ce matin que il y a évidemment un montant qui est payé à la clinique, puis c'est pas vous qui le payez. Puis là, il y a comme des primes qui sont accordées si vous prenez des patients qui attendent plus de 6 mois ou plus d'un an. Là, tu te dis, mais sérieusement, je comprends pas trop la logique de ça. La gestion de la liste, c'est pas la clinique, c'est le réseau de la santé. Ce sont les CIUS qui décident qui s'en va là. Puis en quoi tu dois donner à une clinique une prime parce qu'on passe des patients qui attendent depuis trop longtemps? Il y a quelque chose qui n'a pas trop d'allure. Mais de toute façon, puis je le dis encore, au ministère de la Santé, tout ce qui est privé, la bureaucratie du ministère n'aime pas ça, veut pas faire affaire avec le privé et tente de trouver tous les moyens possibles pour que ça marche pas. C'est assez classique. Et c'est vrai pour des chirurgies, c'est vrai pour tout ce qui est laboratoire, c'est vrai pour tout. Et moi, je ramène ça à une pensée très simple. Comme patient potentiel ou comme citoyen, il y a une seule chose qui compte. On veut être soigné, bien soigné, puis on veut être soigné le plus rapidement possible. Que ce soit dans une clinique privée, que ce soit dans un hôpital, on s'en fout. Ça peut-tu se faire? Puis là, oui, mais là, on va voler du monde dans les hôpitaux, puis là, ça va nuire au réseau de la santé. Partout dans le monde, Dartford, en Ontario, vient d'annoncer qu'il s'inspirait de ses ententes avec des entreprises privées pour être capable d'être efficace, puis de pouvoir soigner des gens. Fait que, disons que, on sent tout le temps une résistance. C'est ça que je veux vous dire. Puis juste pour terminer sur le volet de la santé, puis de cette résistance, tu sais, je reviens à l'histoire de Mme Simard. Il y a quelque chose d'indécent. Et j'ai souvent dit, puis c'est pas tout le monde qui pense ça, mais c'est pas grave, qu'il y a dans le réseau une forme de perte de sensibilité, d'humanité. C'est comme si on a des réflexes, on a des numéros de dossier. Pas tout le monde, pas tout le monde. Il y a des belles histoires. Mais quand tu vois une femme de 90 ans en fin de vie qui est en train de souffrir, qui a mal, puis qu'on n'est pas capable de lui offrir un médicament pour la soulager, puis que les trois derniers jours de sa vie, c'est un enfer, pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas lui donner la médication, elle n'est pas au bon étage. Et semble-t-il que c'est pas juste là. On va essayer de gratter ça un peu ce matin. Un petit mot pour vous dire que le Globe and Mail dit ce matin qu'on est presque rendu à une entente entre le fédéral et les provinces pour augmenter les paiements d'Ottawa pour les systèmes de santé. Ce serait une entente de 10 ans. Et on n'a pas tous les détails. On sait que les provinces disent qu'actuellement, Ottawa couvre 22 % de la facture de santé. On veut amener ça à 35 %. Alors, l'entente pourrait être annoncée quelque part au mois de février. Et il y a comme trois éléments. Un, donc, une entente globale de paiement de transfert. Deuxièmement, des ententes bilatérales, donc, entre Ottawa et chacune des provinces, notamment pour ce qui est de l'hébergement puis des soins pour les personnes âgées. Et aussi, l'engagement des provinces de fournir des indicateurs, un tableau de bord à Ottawa, bref, de s'entendre sur des cibles à atteindre et que ce soit mesurable. Et il semble que l'Ontario et le Québec auraient accepté. C'est en tout cas ce qui est écrit ce matin dans le Globe and Mail. Je vais vous parler de Piquet-Souban, de sa fondation et de l'hôpital Montréal pour enfants. Le Journal de Montréal nous dit ce matin qu'il n'a pas atteint son objectif de 10 millions. Et ça a été confirmé, puis ça fait, semble-t-il, un bout de temps là, qu'ils tentent d'avoir des infos sur la fondation de Piquet-Souban puis son implication avec l'hôpital Montréal pour enfants. Hier, on a appris donc qu'il y avait dans l'opération jusqu'à maintenant 6,3 millions de dollars nets qui ont été recueillis pour l'hôpital de Montréal pour enfants. Et on donne certains détails sur les montants qui ont été financés. On soutient des projets, une aide aux familles de réfugiés dont les enfants sont hospitalisés aux Children, des gens qui ont des difficultés financières, l'accès à la télé, à des Wi-Fi, de l'équipement en santé, des appareils auditifs pour des enfants qui sont pas capables de se les payer. Il y a une série de programmes d'activités pour des enfants hospitalisés, pour leurs frères. Bon, voilà à quoi sert l'argent. Le journal nous dit donc que l'objectif n'a pas été atteint. Ce que reconnaît l'hôpital Montréal pour enfants, ce que reconnaît Piquet-Souban, qui dit, c'est vrai, c'est 10 millions, puis c'est pas ça qu'on a. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu la pandémie, puis il a été changé à travers tout ça, moins présent, puis la capacité d'avoir des événements pour lever des fonds, ça a été plus complexe. Là, je vois des commentaires, puis des gens qui observent ça en disant, ouais, mais dans le fond, là, c'est un show, puis c'est pas très transparent. D'abord, est-ce que Piquet-Souban a donné 10 millions? Le message officiel, c'était ça. OK? Mais c'est pas ça, la réalité. La réalité, que c'est une fondation qui veut aller chercher 10 millions. Combien il a donné, on le sait pas. Ça a l'air que c'est pas indiqué. Mais en bout de ligne, c'est sûr que ça fait Piquet-Souban donne 10 millions aux Children. Mais c'est pas ça. Il crée une fondation, puis il veut ramasser de l'argent. Puis il sert de sa réputation, de son nom, pour ramasser du fric. Deuxièmement, quand je lis ça ce matin, ça manque un peu de transparence, un peu beaucoup. Ça serait bien qu'une fondation comme celle-là puisse nous dire voici combien nous avons exactement, combien nous avons dépensé, puis est-ce que c'est 2 millions, c'est 3 millions, c'est 6 millions, puis c'est pas juste un communiqué, ça prendrait quelque chose d'un peu plus substantiel, je pense. Mais je ne doute pas de la bonne volonté de Souban. Oui, c'est un showman, puis oui, peut-être qu'il en fait un petit spectacle personnel, mais c'est quand même une implication dans la communauté. Puis, il a décidé de prolonger son association avec l'hôpital dans l'espoir, justement, dans les prochaines années, d'atteindre l'objectif. Dans les autres nouvelles, on a parlé avec Alain tantôt de Sandro Grande, qui a présenté ses excuses, qui a écrit à Mme Marois, qui va rencontrer le chef du PQ, qui a fini par avouer, après je sais plus combien de pirouettes, qu'il est l'auteur du tweet qui souhaitait la mort de Mme Marois. Tu sais, l'histoire du compte à qui, il n'y a personne qui a cru ça. Puis c'est mensonge par-dessus mensonge pour finalement, hier, avouer. Puis il dit qu'il est bouleversé, puis qu'il reçoit des menaces, puis qu'il espère un jour pouvoir coacher à nouveau. Personne peut remettre en question, je pense, ses excuses. Moi, je pense qu'il est surtout troublé parce qu'il a perdu sa job, puis qu'il se fait menacer, puis sa famille aussi, puis ça, c'est pas drôle, puis c'est pas agréable. Mais me semble-t-il qu'il aurait été, disons, plus efficace et plus crédible si on avait arrêté les mensonges dès le départ. Parce qu'on nous a répété ça ad nauseam, là, que le message sur Pauline Marois, c'était pas lui. Puis là, finalement, il nous dit. Fait que ça laisse, sincèrement, là, au-delà de ses capacités comme entraîneur, un goût amer sur cette histoire-là. Fadi Daguerre a été assermenté. Il sera avec nous ce matin, le nouveau directeur de la police de Montréal. Premier enjeu, garder les policiers à Montréal, puis aller en chercher. Convaincre les jeunes policiers que, oui, c'est peut-être pas simple. Oui, ça coûte cher vivre à Montréal. La criminalité particulière. Puis comme jeune policier, vous serez confronté à des trucs de santé mentale que vous verrez pas ailleurs. Mais c'est ça aussi un engagement quand on est dans la police. Et donc, on se rend compte que la situation est quand même, en termes de recrutement, difficile pour ce qui est de Montréal. Je vous parle aussi du cardinal Marc Ouellet, deuxième plainte. Une autre femme, pour des événements qui sont arrivés avant le cas qui a été rendu public là de Pamela Groslot, dont on a vu le témoignage dans les médias la semaine passée. Savez-vous quoi, là? J'allais vous dire, c'est la hiérarchie religieuse à son meilleur. Marc Ouellet est un cardinal de droite, un anti-avortement. Il est reconnu comme faisant partie de l'aile radicale du Vatican. Donc, il y a une plainte sur des événements qui remontent aux années 2008-2009. On ne sait pas quoi. Ce serait, semble-t-il, plus sérieux que et plus grave comme geste que ceux posés par et présumés posés par le cardinal Ouellet à l'endroit de Mme Groslot. Mais là, c'est la même histoire. C'est le cardinal de Québec qui reçoit le dossier, Cyprien Lacroix. Il envoie ça à Rome, direct chez le pape. Le pape nomme un enquêteur, un chum du cardinal Ouellet, dossier fermé. Ça fait deux fois que tu te demandes jusqu'à quel point, disons, le clergé, la hiérarchie religieuse a fait son travail. Et puis, un mot pour vous dire ce matin, sur le plan économique, les chiffres, ça c'est intéressant. Pour ce qui est de la demande des produits comme de produits manufacturiers, des électroménagers, des meubles, la rareté commence à s'estomper et les clients cherchent les aubaines et retardent des achats. Les gens qui voulaient changer de meuble, voyant les prix d'intérêt, surtout quand tu prends ça avec des paiements ou t'empruntes ou ta marge de crédit, il y en a plusieurs qui décident de repousser ça dans le temps. Et la conséquence, c'est qu'on voit que l'inflation s'essouffle concernant le prix des appareils électroménagers et également des meubles.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Il est maintenant officiellement et assermenté le nouveau directeur du service de police de la ville de Montréal. Fadi Daguerre est avec nous. Monsieur Daguerre, bonjour.
Bon matin, Jacques.
Là, c'est vrai. Là. C'est vous qui êtes le patron. Oui. C'est vous qui êtes en autorité pour les prochaines années au service de police. Vous avez dit que le premier défi, c'était de garder ceux qui sont là, chez les policiers et policières, première affaire. Puis deuxièmement, d'aller recruter des policiers puis de les convaincre de venir à Montréal. Comment vous allez faire ça?
Ben écoutez, je vais utiliser toutes sortes de stratégies. Tout est sur la table. J'ai parlé avec le ministère de la Sécurité publique. J'ai parlé avec la ville de Montréal. Je vais rencontrer Nicolette tout prochainement. Je vais descendre à Nicolette aussi. Il faut qu'on trouve des manières de pouvoir les retenir. Il n'y a pas de façon magique de le faire. Mais une chose qui est certaine, on peut plus continuer à avoir ce genre de d'hémorragie où des personnes quittent le service. Il y en a eu 72 qui ont quitté en 2022. On a recruté 208, mais on a eu 242 départs. Donc, il y a un trou de 34. Donc, non seulement on a recruté, c'est correct, mais en plus, il nous manque 34. Ça peut pas continuer ainsi. Donc, les stratégies, on verra.
Mais qu'est-ce qui fait tout. Que des jeunes policiers lèvent le nez sur Montréal?
Mais, écoutez, c'est complexe, mais en même temps, c'est multiple. Pas compliqué. Très stressant de travailler à Montréal. Quand vous venez à Montréal, il y a beaucoup de pression médiatique. Le style d'appels que vous recevez aussi sont nombreux au niveau de la détresse humaine, santé mentale. L'aspect du... la vie est plus chère à Montréal.
Mais là, je vous arrête. Là. Ouais. Moi, je vais être policier dans la vie. Là.
Ouais.
C'est pas pour patrouiller des quartiers tranquilles où on me signale la disparition d'un chat.
Monsieur Arcan, vous avez absolument raison. Et c'est justement pour ça que je veux descendre. Les rencontrer. Parce que je veux ramener le sens. Protéger et servir quoi? Quand? 72% de la criminalité est à Montréal. Si vous voulez faire une vraie différence, c'est ici. D'ailleurs, moi, je suis revenu. Si je suis revenu, c'est parce que je sais que c'est ici que ça se passe. Et dès que Montréal a moindrement l'atout, le Québec a le rhume. Fait que je sais que c'est ici que ça va se passer. Donc, les ramener là-dessus. Puis l'aspect pécunier, je le comprends. L'aspect du stress, je peux le comprendre. Mais si tu voulais protéger, servir depuis le début, tu es en technique policière, ça fait des années que tu rêves à être policier, mais c'est ici que tu peux faire la différence. C'est vraiment à Montréal que tu peux faire la différence.
Je parlais avec votre collègue de Laval, M. Brochet, oui. qui représente l'Association des directeurs. Moins d'enjeux comme ça à Laval, mais aussi moins de candidatures, c'est-à-dire que moins de gens intéressés par le métier de policier.
Mais je pense que récemment, on est allé à Nicolette, puis je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt, quand même. Et même à Montréal, les gens ont encore l'intérêt. Je suis allé sur la patrouille durant la période des fêtes. Je suis allé rencontrer dans les postes du quartier des policiers. Ils vivent énormément de pression. Mais franchement, j'étais extrêmement content de voir que les gens sont encore motivés. Et c'est pas tous. Il y en a qui sont démobilisés. Mais beaucoup de personnes disent, monsieur, on veut encore. On veut, mais donnez-nous un peu de souffle. C'est pour ça que je l'ai mis comme priorité numéro un. Et dès que les personnes, on leur parle un peu du métier qu'ils pourront faire comme policiers, puis on leur explique, franchement, clairement, c'est quoi leur journée de travail qui va être à Montréal. Doucement, les gens s'y approprient. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir dans un mois, dans deux mois, de renverser la vapeur. Mais je pense qu'avec les divers partenaires, comme je vous l'ai mentionné, la ville de Montréal, je suis en train de retrouver des solutions avec l'équipe à l'état-major. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait arriver tout prochainement.
J'entends plein de choses, évidemment. Ça écrit, puis ça jase, puis... Vous allez devoir convaincre un certain nombre de vos policiers et de policières que vous êtes capable de répression. On a l'image de Fadi Daguerre pour l'approche communautaire, puis de dire il faut désamorcer avant que ça éclate. Mais on vous connaît moins quand vient le moment, disons, d'être un peu plus dur.
Oui, je le conçois et je pense que les personnes vont apprendre à me connaître. J'ai été toute ma carrière, j'ai toujours eu un équilibre. Entre la répression et la prévention. Ce que j'aime montrer, c'est que quand c'est le temps de frapper, on va frapper extrêmement dur. Puis je vous l'ai déjà mentionné sur les ondes, quand c'est le temps, c'est lui-même le chef qui va descendre avec ses troupes sur le terrain pour faire des opérations avec eux autres. J'ai aucun, et d'ailleurs hier, quand j'ai parlé des fusillades à Montréal, j'ai même mentionné, il va falloir qu'on trouve une manière de donner plus de robustesse aux enquêtes. Parce que je suis conscient que les enquêteurs qui sont en place présentement, à part tout ce qui est l'aspect des fusillades, il y a toutes les autres criminalités extrêmement importantes. Puis ils sont le même nombre et leurs dossiers n'arrêtent pas de monter. Et en plus, les dossiers se complexifient de plus en plus avec la Cour. Il va falloir qu'on trouve des solutions aussi au niveau des enquêtes. Donc si j'aurais été quelqu'un qui était juste au niveau de la prévention, c'est pas quelque chose qui m'inquiéterait. Au contraire, je l'ai mis dans une de mes priorités. Et il va falloir que les gens ils vont s'apercevoir que Fadi Daguerre est capable de faire de la prévention, mais il est capable de faire autant de répression. Puis, il y a des moments pour ça, M. Arcan. Et pour avoir une légitimité de faire de la répression, il faut absolument que vous ayez fait beaucoup de prévention auparavant. Puis par la suite, vous pouvez frapper. Et frapper, puis plus personne ne se questionne, parce qu'ils se disent, oui, mais il nous a prévenus plusieurs fois. Là, c'est terminé.
Mais... Sur le plan de la criminalité, bon, il y a ce qu'il y a pour les citoyens très, très apparent, là, donc les fusillades, malheureusement, beaucoup de crimes avec des armes blanches. Si vous aviez à me dire, en termes de type de criminalité, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qu'il faut combattre en partant?
Bon, c'est sûr que la cybercriminalité, à part les fusillades, est extrêmement préoccupante. Tout ce qui est en ligne. il y a des fraudes, il y a des tout l'aspect sexuel même en ligne. C'est extrêmement important de pouvoir s'y attaquer très très rapidement parce qu'il y a des ravages qui se font là qu'on n'est même pas au courant. Parfois on n'est même pas sur le radar là-dessus. Donc ce serait une des grandes criminalités à part les fusillades que je voudrais vraiment qu'on s'y attaque. Tout l'aspect des violences conjugales, tout l'aspect de tout ce qui est les agressions sexuelles. Ça c'est une autre forme de criminalité qu'il faut absolument attaquer aussi.
Êtes-vous inquiet de voir qu'on a un système de justice où les cas sont en train de s'empiler? Hier, on parlait peut-être de 9000 causes qui seraient, qui auraient un arrêt des procédures d'ici l'été, là. Donc, des gens qui, on sait pas s'ils sont coupables ou non, mais qui, en tout cas, ont pas de procès. Puis moi, je pense à vos enquêteurs, puis vos politiques qui arrêtent du monde, qui montent des dossiers, puis qui se font dire, ben, malheureusement, on arrête tout ça.
Mais très inquiet, puis c'est drôle que vous le mentionniez, parce que dans mon discours d'hier, je l'ai même mentionné subtilement, mais clairement. Il va falloir qu'on trouve des moyens, des façons de faire avec l'appareil de justice et d'autres institutions, parce que ça peut pas continuer comme ça. Et si on perd des dossiers, lorsqu'on les monte pendant des heures et des heures, on travaille de manière acharnée à protéger nos victimes, et finalement on arrive à la cour, puis tout tombe. Ça peut pas continuer ainsi.
Mais le commissaire à l'UPAC a dit que par exemple, des crimes de col blanc, qu'on appelle là, des crimes économiques, la preuve est très difficile à monter. Moi, là, comme citoyen du Québec, je me dis, Desjardins, le vol d'identité, là, ça fait faire 4 ans que c'est arrivé, puis il n'y a personne d'accusé. Des enquêtes de l'UPAC qui avancent, mais lentement, des enquêtes qu'on doit arrêter. Il y a de vos policiers sur des crimes qui disent... on arrive, puis on a de la preuve, mais il en manque, puis il faut recommencer, puis il y a des avocats qui nous arrivent.
Ça demande beaucoup plus.
Tout le temps en plus. C'est comme si au Québec, là, tu commets un crime économique, tu risques d'avoir la paix assez longtemps.
Oui, parce que c'est vrai, parce que pour, je sais pas pourquoi, mais on dirait que tant que c'est pas violent, bon, ben, ça passe. C'est fou. Les sentences au niveau des crimes non, sans violence, c'est comme si, non, c'est correct. Et pourtant, C'est des drames familiaux qui arrivent une fois qu'on se fait voler, frauder tout son compte de banque et compagnie. Mais pour certaines personnes des instances, c'est pas violent. On prend notre temps avec ça. Non, vous avez absolument raison. C'est pour ça que je vous parle d'une discussion, d'un échange. Il va falloir qu'on s'assoie avec l'appareil de justice parce que eux-mêmes. J'ai lu un article de la juge supérieure au Québec dans la presse. Eux-mêmes parlent d'un duct tape. Que le navire tient avec un duct tape dans le fond. Mais alors, il faut vraiment qu'on s'assoie, qu'on trouve des solutions, parce que pour le travail des enquêteurs, c'est devenu extrêmement complexe, extrêmement difficile, et à la fin, ça devient très frustrant quand tout tombe.
Je vais vous parler de votre fille, parce que la photo a été publiée durant la période des fêtes et tout ça. D'abord, pour les gens, un rappel, la photo, c'est un déguisement de l'Halloween, puis il y a une arme jouet en plastique. Là. D'abord, comment vous l'avez appris?
Je l'ai appris par le média.
OK. Ça a été quoi votre réaction?
Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que j'avais pas vu la photo du tout. Je vous dirais, quand j'ai vu la photo, ben là, j'ai bien compris que c'était une scène d'un film. C'était mis le 31 octobre. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi soudainement ça sort maintenant? Tandis que j'étais chef de police à Longueuil, c'est jamais sorti. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le côté de la banalisation de l'arme, j'ai été très clair là-dessus. Faut pas s'amuser avec ça. Ça, c'est important. C'est un manque de jugement et j'en ai parlé avec ma fille. Mais ce qu'elle paye présentement pour ça, au niveau des médias sociaux, de l'intimidation et de l'harcèlement qu'elle reçoit, c'est trop durement payé. Elle mérite pas ça. Et ce que je trouve extrêmement difficile, c'est que j'ai un rôle de chef de police, mais un rôle de papa aussi. Si j'aurais pas été en préparation de venir à Montréal, je sais pas si cette photo serait sortie. Ça fait 7 ans, je suis directeur. Soudainement, ça sort. Ça fait un peu bizarre. Juste vous dire une chose. Ma fille, elle est extrêmement forte. Et je l'adore et j'en suis très, très fier.
Mais, sérieusement, quelqu'un regarde ça puis dit, c'est un... pour l'Halloween, un déguisement. OK, l'arme de plastique, mais ultimement, là, c'est inspiré de, vous l'avez dit, d'un film.
Je sais pas quoi vous dire.
Ben, j'étais en vacances quand j'ai eu ça, puis j'en revenais pas, puis je comprenais pas pourquoi. Puis Puis là, j'avais une hypothèse. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui n'aiment pas votre style puis qui vous envoient un message.
Probablement. Ça commence.
Ça commence, vous dites?
Ben oui.
Ça, vous le savez que ça va arriver.
Mais pas au niveau des enfants. Franchement, qu'on m'attaque moi, mais qu'on critique mes stratégies, mes approches, genre quand je suis un grand garçon, je vais les expliquer. Puis je fais des erreurs. Je suis le premier à mettre un genou à terre. Je suis extrêmement authentique dans ma communication et dans mes échanges avec les gens. Mais quand on touche aux enfants, je trouve ça très particulier.
Merci d'être venu ce matin. Bonne journée.
Merci.
Fadi Daguerre est le nouveau directeur du service de police de la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
La veuve de l'ex-premier ministre du Québec, Robert Bourassa, est décédée il y a quelques mois, fin novembre, au centre hospitalier Sainte-Marie à Montréal. Dans une lettre, sa fille raconte les derniers moments de sa mère et on y apprend que Mme André Simard, qui a donc été hospitalisée, est décédée après 3 jours de souffrance parce qu'on lui refusait des médicaments pour atténuer cette souffrance dans le cadre de soins de fin de vie, soins de confort, soins palliatifs. Et que ça a été pour elle et pour ses proches, évidemment, des moments extrêmement tragiques. Je passe sous silence le fait qu'elle s'est retrouvée dans une chambre à deux avec quelqu'un qui avait la COVID et qu'on l'a finalement transférée dans une chambre qui n'avait pas été nettoyée avec une seringue sur le plancher. Mais ce que ça amène comme discussion, parce que ce que Mme Simard a vécu semble pas être un cas unique. C'est comme si parce qu'on est sur un étage d'un hôpital, on peut pas obtenir les médicaments pour soulager notre douleur. Faudrait qu'on soit aux soins palliatifs, faudrait qu'on ait un cancer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde nécessairement. Mais donc, ça amène la discussion, pas sur la mort, c'est sur la douleur. C'est pas la mort en tant que telle qui fait peur. C'est que personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'avoir mal, puis on veut qu'on soulage cette douleur, cette souffrance quand ça se produit. J'en parle ce matin avec Dr Caroline Ouellette, qui est anesthésiologiste, intensiviste au CHUM, présidente fondatrice également d'un organisme qui s'appelle Aux Trois Sentiers, soins palliatifs. Elle connaît très bien ça. Dr Ouellette, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, j'essaie juste de comprendre là pourquoi on refuse des traitements à quelqu'un comme Mme Simard, là, qui souffre, puis qu'on explique qu'il faudrait l'envoyer aux soins palliatifs, mais qu'on n'a pas de place, puis que le médecin veut pas. On n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi on peut pas soulager dans un hôpital la douleur de quelqu'un?
Ben, je dirais que c'est probablement un enjeu de méconnaissance des options que le médecin a sous la main, qu'il peut administrer, de certaines molécules, des médicaments qui se donnent soit intraveineux, soit sous-cutanés, mais qui exigent une surveillance particulière parce que le patient s'endort, la respiration est à surveiller et tout. Il y a quand même un protocole de surveillance que les étages de médecine, de chirurgie ne sont pas ou sont moins habilités à faire. Et puis, ça amène cette situation malheureuse-là qui doit être absolument adressée.
Mais c'est parce que ça n'a pas de sens, là. Quelqu'un qui souffre, les médicaments existent. Ce que vous me dites, c'est que on n'a pas le personnel, la formation, l'expérience pour donner ces traitements-là parce que ça nécessite plus de surveillance.
Ben, si vous me permettez, je dirais plutôt que le patient est au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, la fin de vie, je pense pas que ça devrait se vivre sur un étage, dans un hôpital, où est-ce que les objectifs sont de traiter, de guérir les patients. Les équipes sont orientées vers la guérison, le traitement, l'intervention des patients. Tandis qu'en fin de vie, c'est un peu une médecine qui est très particulière, qui est tout aussi belle, mais dont les objectifs sont pas les mêmes. Il y a quand même un besoin de surveillance infirmière, il y a quand même un besoin de prise en charge médicale, mais pour des objectifs d'accompagnement de soins de fin de vie. Donc, je voudrais que l'environnement du décès est très important, donc il faut qu'on revoie la trajectoire des patients mourants et qu'on, autant que possible, qu'on leur offre une alternative à l'hospitalisation, entre autres le domicile. Il faut décentraliser les soins de fin de vie, c'est-à-dire qu'il faut offrir aux patients le plus possible le confort de la maison, mais avec des ressources qui sont adaptées, qui sont formées, qui connaissent les alternatives de prise en charge de soins de fin de vie avec différentes options de médicaments, de voies d'administration, et les surveillances qui vont avec. Donc, c'est ça, je pense qu'on fait face à deux enjeux. Un problème, c'est pas tant le problème de nombre de personnes qui étaient pas disponibles, c'était surtout les mauvaises personnes qui étaient au mauvais, le patient se retrouvait dans un mauvais endroit.
Mais, deux, trois questions. Il y a une auditrice qui me dit ce matin que dans le cas de son conjoint qui était en fin de vie, mais que c'était pas un cas de cancer, mais en tout cas, je peux entrer dans les détails, mais on lui a répondu, vous savez, les soins de fin de vie palliatifs, c'est réservé pour des patients qui ont le cancer. Est-ce que c'est vrai, ça?
Non, pas du tout. Puis okay. C'est seulement une question d'incidence. C'est qu'il y a plus de décès qui sont causés par le cancer, et on entend beaucoup parler du cancer, mais il y a toutes les insuffisances d'organes, les maladies neurodégénératives. Donc, il y a deux autres trajectoires de décès qui sont moins bien, pas moins bien connues, mais moins véhiculées peut-être. On en entend moins parler. Mais vous avez raison que ça ne devrait pas limiter l'accès à des soins palliatifs et des soins de fin de vie, au contraire. Une fin de vie, c'est une fin de vie. On ne devrait pas séparer ça en compartiments et limiter l'accès à des soins de fin de vie juste à cause du diagnostic ou du contexte. Moi, je pense qu'il faut surtout s'attaquer à l'environnement de où est-ce que le patient vit sa fin de vie, favoriser les alternatives à l'hospitalisation, sortir les mourants des hôpitaux, leur donner un environnement dédié et des équipes qui sont formées et qui ont les connaissances et les compétences pour accompagner les patients et les familles.
Mais actuellement, là, aujourd'hui, selon votre expérience, puisque vous savez, quelqu'un qui veut mourir à la maison, qui veut pas être à l'hôpital, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est compliqué? Puis j'allais prendre une image un peu plate. Est-ce qu'on est sur une liste d'attente pour mourir?
Oui, ça peut se faire, évidemment. Est-ce que c'est compliqué? Je pense que ça en met beaucoup sur les épaules des proches. Quand il y en a, parce que ça aussi, c'est une nouvelle réalité. Les Québécois n'ont pas toujours des proches qui vivent 24/7 avec eux à la maison. Parfois, on a des patients qui vivent seuls, donc ou des proches aidants qui sont eux-mêmes malades. Donc, c'est certainement plus compliqué parce que les ressources attribuées aux soins de fin de vie à domicile sont largement insuffisantes. En fait, je pense que les soins palliatifs à domicile, en général, ont besoin d'un peu plus d'attention, à mon avis, au niveau de l'organisation des soins, mais particulièrement là où les symptômes deviennent plus importants, où est-ce que le patient devient plus exigeant au niveau de ses symptômes. Il est souvent inconscient, il se mobilise plus, il sort plus de son lit, il mange plus, il prend plus ses médicaments. Donc là, c'est toutes des situations où les proches aidants se sentent rapidement impuissants, et c'est là où est-ce qu'on se dirige vers les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas d'intensification des ressources qui sont parallèles à l'augmentation des symptômes des mourants. Donc, l'hôpital devient la seule option, malheureusement. Et là, quand on dit l'hôpital, c'est aussi les salles d'urgence, malheureusement.
Exactement. Parlez-nous un peu de O3 Sentier. Et ça s'inscrit un peu dans la discussion qu'on est en train d'avoir, vous et moi, là.
Oui, ben, tout à fait. Je lisais la lettre de Mme Bourassa, puis je sais pas si elle nous écoute ou si la famille nous écoute, mais je voudrais lui dire que je suis passée par les mêmes émotions. J'ai perdu mon père dans les mêmes circonstances, dans une autre région administrative. Donc, malheureusement, c'est généralisé. Je pense qu'il faut adresser ça, mais j'aimerais qu'elle sache qu'il y a des solutions et que l'organisme, en fait, c'est né de cette situation-là il y a 4 ans. Donc, après avoir vécu la colère et la frustration, j'ai décidé d'essayer de prendre mon bâton de pèlerin pour essayer de changer les choses. Et puis, la réception, elle est très bonne. On cogne aux portes et puis on cogne fort parfois, mais on va y arriver pour justement revoir les alternatives à l'hospitalisation pour les patients en fin de vie et développer un peu plus l'anesthésie palliative. Parce que faut pas oublier, M. Arcand, la méconnaissance des options, il y a des spécialistes, des médecins spécialistes comme les anesthésistes qui ont ces connaissances-là de molécules, de voies d'administration particulières. Donc, on pourrait prêter main forte à des médecins qui ont moins ces connaissances-là. Et puis c'est ça que les trois sentiers sont actifs dans le sens qu'on veut aller vers les mourants plutôt que les mourants se déplacent à l'hôpital. Donc on veut développer davantage l'accès aux soins de fin de vie à domicile et éventuellement dans une maison de soins palliatifs à Montréal.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie, M. Arcand. Au revoir, bonne journée.
Docteur Caroline Ouellette, qui est anesthésiste, intensiviste au CHUM et présidente fondatrice d'Aux trois sentiers, donc soins palliatifs. Alors, comme elle le dit, le problème, c'est que le patient n'est pas à bonne place. Puis, il aurait fallu qu'il soit ailleurs, idéalement chez lui, mais en tout cas pas là où, dans le cas de Mme Simard, elle est décédée.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Bon, on va parler de cette enquête, cette étude qui montre, disons, les ravages des chantiers de construction au centre-ville de Montréal. Et ce qu'on découvre, c'est que 94% des artères du centre-ville ont été entravées à un moment ou à un autre. Il y a également 27% des cônes oranges qui ne servent à rien, qui sont là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, des chantiers inexistants. Et sérieusement, là, il y a tout le volet de ces permis de construction qui sont accordés à des promoteurs qui empiètent donc sur la voie. Et c'est comme si Montréal disait, on se remplit les poches, puis quand même, ça fait un centre-ville complètement bouché, bloqué. C'est pas trop grave. Marc est avec nous parce que t'as vu le contenu de cette étude. Qu'est-ce que tu retiens d'abord?
Ben, c'est un constat qui est extrêmement frappant, très révélateur. Ce sont des chiffres qui viennent confirmer une impression, celle qu'ont tous les utilisateurs conducteurs, c'est-à-dire que le centre-ville de Montréal, c'est à peu près impossible de s'y déplacer en véhicule. C'est à pied qu'il faut le faire. Ce qu'on appelle l'hypercentre, donc l'arrondissement Ville-Marie, mais plus précisément le centre-ville. Comme tu viens de le dire, le 94% des rues ont été barrées au moins une fois durant l'année dernière. 94%. La rue Saint-Urbain, c'est un exemple tellement frappant, là. La rue Saint-Urbain a été entravée à chaque année pendant 9 ans. Alors, si les gens trouvent qu'il y a des entraves régulièrement, là, ben, vous en avez la preuve avec ces chiffres. Les permis qui sont accordés, ça rapporte beaucoup d'argent à la ville. Ça fait œuvre utile. Et je trouve que la Chambre de commerce Montréal métropolitain, son président, Michel Leblanc, fait bien de lever le drapeau sur cette situation. Mais, malheureusement, là, améliorer la façon de gérer les chantiers, c'est une difficulté qui est majeure pour l'arrondissement Ville-Marie. Et je crois pas que ça va être sous contrôle assez rapidement, là, parce que c'est un travail qui demande une réelle prise en charge. Tu sais, c'est un grand défi opérationnel, c'est très important et ça va au-delà des compétences que la Ville de Montréal nous a démontrées à ce jour. J'espère qu'à un moment donné, ces gens-là sauront trouver une solution et me faire mentir, mais pour l'instant, là, je vois pas comment on va réussir à s'en sortir. Et je termine avec la réponse de la présidente du comité exécutif hier, qui disait vouloir analyser l'analyse, prendre acte des faits et nous expliquait que l'enjeu de la gestion des chantiers va être étudié avec l'ensemble des parties prenantes. C'est un discours un peu creux, à mon sens, et il nous rappelle aussi que c'est toujours très long de changer les règles. Donc, visiblement, faut pas s'attendre à ce que ce soit nettement mieux au cours des prochaines semaines ou très rapidement.
OK, on va retourner tantôt voir comment ça va sur le réseau.
Oui, bien sûr.
Mais entre-temps, je suis avec la mairesse de l'arrondissement antique Cartier-Ville, qui est aussi responsable des infrastructures et des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la ville, Émilie Thulier. Madame Thulier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, la question, la toute première, va être très simple. Est-ce que on doit abdiquer? Êtes-vous capable, à la ville de Montréal, d'enlever les cônes inutiles, qui est une forme de coordination des chantiers, bref, de mettre fin au bordel, ou s'il faut tout simplement s'habituer à vivre avec?
Ah non, on n'abdicte pas. Justement, on fait... Il y a des nouveautés chaque année, puis parlons-en des cônes oranges. Là, justement, la nouveauté des dernières années, c'est l'escouade de mobilité qui enlève justement ces cônes qui ne servent à rien. Ils ont fait des milliers d'interventions. Ça veut dire que ça marche, l'escouade de mobilité, parce qu'ils enlèvent des cônes qui ne servent à rien. Mais ça veut dire qu'il y a plein de cônes qui ne servent à rien, comme le disait l'interlocuteur précédent. Et c'est à ça, notamment, qu'on veut s'attaquer.
Mais est-ce qu'on pourrait regarder la source du problème? Comment ça se fait qu'on installe des cônes qui ne servent à rien?
En fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire un cobra avec l'escouade mobilité. Puis si ça vous intéresse, ou la personne qui vient de parler avant moi, de faire un cobra avec l'escouade mobilité, c'est très intéressant. Donc, ça pourrait être une activité là à prévoir. Des fois, là, c'est que c'est la journée même. Le chantier existe encore. Mais cette journée-là, ils sont pas là parce qu'il pleuvait, par exemple, un peu, puis ils sont pas venus pour la journée. Mais nous, ce qu'on demande à la Ville de Montréal, justement, dans l'optique que vous apportez ce matin, c'est si la personne n'est pas là sur le chantier et que le chantier est sécurisé, ben les cônes, on veut pas les voir. Fait que l'escouade mobilité, c'est pour ça qu'elle enlève les cônes.
OK, mais là, Mme Thulier, moi, je veux bien... Mais je vais vous dire franchement ce que je pense. Là, le discours sur l'escouade de la mobilité, je l'entends, ça fait 2 ans. Ce que je sais, par contre, là, c'est que le centre-ville, il y a des cônes qui servent à rien. Il y a des chantiers, des rues qui sont entravées par des chantiers privés, des entrepreneurs qui s'installent, puis that's it. C'est pas vrai que ça va mieux depuis que l'escouade de la mobilité. Vous pourriez me dire que ça serait pire, peut-être, mais le centre-ville de Montréal est laid et pas agréable. Les gens aiment pas ça s'y promener parce que c'est un casse-tête, pour ne pas dire un cauchemar. Fait que, tu sais, on peut bien se compter des peurs pour penser que ça va bien, là, mais...
ça peut effectivement être un casse-tête pour plusieurs personnes, on le reconnaît. Et c'est pour ça que dans les deux dernières années, fait qu'on arrive avec une nouveauté chaque année, la Charte montréalaise des chantiers et l'escouade mobilité. Et on ne s'arrête pas là, ce qui était le sens de votre question. On continue, puis nous, on est très heureux de cette étude de la CCMM parce que, vous l'avez dit, il y a 30% des chantiers dans la ville qui sont de la ville, mais il y en a beaucoup d'autres que c'est le privé. Puis c'est vraiment intéressant que le privé, de plus en plus, voit à quel point, finalement, ils ont un impact positif en développant Montréal.
Hein? Mais madame, ça prend un peu de coordination. Si vous avez l'air d'une machine à vendre des permis à la Ville de Montréal, vous cachez puis vous vous foutez de l'impact sur le reste.
Je peux vous dire que c'est absolument pas ça. Je peux vous dire que chaque employé et chaque élu est complètement dédié à cette coordination. Par ailleurs, les immobiliers, on peut pas leur dire « Hey, tu vas faire ton bâtiment dans 5 ans ». C'est fait que c'est sûr qu'il y a personne qui fait des travaux pour le fun, là, autant dans la rue que dans un promoteur immobilier. Et la coordination, elle se fait, elle peut être améliorée, oui. Et c'est pour ça qu'au sommet des chantiers, on va mettre toutes les personnes autour de la table.
Madame Tully, avec beaucoup de respect, moi, je suis plus capable des tables, des chantiers, de toutes les patentes qui sont mises sur pied, qui aboutissent à du blabla. Et ça, c'est pour essayer d'endormir les Montréalais, endormir les touristes en disant « On a un chantier, nous nous réunissons, toutes les parties prenantes vont être là. » Dites-nous-le, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, vous n'êtes pas capable de gérer ça. Puis c'est mieux, c'est plus franc, c'est plus honnête, pour au moins on sait à quoi s'attendre.
Je suis très transparente avec vous et honnête, c'est pour ça que je vous dis qu'on continue à s'améliorer et qu'on ne baisse pas les bras et que quand on dit qu'on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, bien le privé a besoin d'être autour de la table, il ne l'était pas, fait que ça va être une bonne nouvelle. Le MTQ a besoin d'être autour de la table parce que les cônes, par exemple, les cônes orange, nous on trouve qu'ils sont trop gros pour la ville, c'est des cônes dimension autoroute. Mais ça, on veut changer ça avec le ministère des Transports, fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir tout le monde autour de la table.
Écoutez... Vous faites quoi depuis 5 ans? Je veux dire, les parties prenantes sont où depuis 5 ans? Les gens du privé sont où? Depuis quand vous trouvez que les comptes sont trop gros?
Et c'est pour ça qu'on doit travailler avec...
OK, mais depuis quand? Depuis quand
On travaille pas tous à la même vitesse. Nous, à la Ville, on travaille quand même assez vite. Des fois, il y a des ministères qui sont un peu plus lents, mais on veut travailler avec eux parce que la Ville, c'est différent que des autoroutes.
Ma question est simple. Depuis quand vous trouvez que les comptes sont trop gros?
Ça fait un bon moment que nous, on veut travailler sur les comptes. C'est pour ça que l'escouade mobilité, ça a été la première chose. Nous, on travaille...
Non, mais ma question, c'est pas ça. Ma question, vous avez dit les comptes sont trop gros pour la ville. Ma question, c'est depuis quand vous avez constaté que les comptes étaient trop gros pour la ville?
On travaille avec le MTQ depuis un bon moment là-dessus.
Puis il n'y a rien qui se passe.
Le sommet des chantiers, on veut y arriver. On enlève les comptes entre-temps parce qu'il y en a trop. Puis vous savez ce qui a changé aussi dans les 3 dernières années? Il y a eu la pandémie, ça c'est autre chose. Mais dans les 2 dernières années, il y a plus de véhicules qu'il y en avait avant dans le centre-ville. C'est sûr que ça fait une différence majeure. Parce que si on dit plus de véhicules, ça veut dire que c'est plus difficile de bouger. C'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à reprendre le transport en commun. Les gens n'ont pas repris leur habitude de reprendre le transport en commun. Puis un centre-ville, oui, on peut y accéder en voiture, mais surtout, on y accède en transport en commun et en transport actif.
Je comprends, mais il y a aussi des touristes dans le centre-ville qui se promènent puis qui ont de la misère à trouver les commerces parce que c'est complètement bloqué. J'ai des commerçants qui viennent fous parce que le déneigement du centre-ville... Ça gagnera pas des médailles. Puis en plus, il y a des chantiers. C'est pas juste l'automobiliste, là. Il y a des livreurs, il y a des taxis, il y a des autos de police, il y a des autobus. Si vous parlez aux chauffeurs d'autobus qui se promènent dans le centre-ville, ils trouvent pas ça jojo, eux non plus, là.
C'est pour ça que je dis que dans le centre-ville, là, vraiment, on doit accéder en transport collectif, en transport actif. Et les livraisons, oui, puis il y a plein des horaires de livraison aussi qu'on peut revoir. Il y a des choses qu'on est en train de travailler pour le sommet, justement. Quand on dit le sommet, ça sert à rien, ben non, nous, on trouve que c'est vraiment...
Ah, c'est sûr.
Va arriver avec des propositions, puis pas juste à la ville. Tu sais, la Charte des chantiers, on l'a déjà, la Charte des chantiers montréalaise.
Mais qu'est-ce que ça change?
Elle a été signée par plusieurs personnes. Ça change que, par exemple, vous avez maintenant des habillages de chantier. Ah. Avant, on passait à côté d'un chantier, on savait pas c'était qui faisait quoi dans la rue. Maintenant, vous avez un habillage de chantier pour certains, puis on veut que tout le monde... Maintenant, vous passez, vous savez que c'est la ville, là, vous savez que c'est la STM, par exemple, qui construit la ligne bleue, exemple. Hein? Donc, c'est important, parce que je dis, les chantiers, on les fait pas pour le fun, mais nous, comme citoyens, on a besoin de savoir, là, ça nous rassure de savoir qui c'est qui est dans la rue en train de faire « Ah, mon Dieu, c'est la STM qui construit la ligne bleue. Ah, chouette, OK. » C'est un inconvénient majeur, mais on sait que ça va donner quelque chose.
Ça change bien des affaires dans ma vie de savoir que c'est la STM ou savoir si c'est un promoteur privé. Quand c'est bloqué, que ce soit vous ou pas quelqu'un d'autre, là. Puis que c'est pas coordonné, puis qu'il y a des comptes. Et... OK, mais de toute façon, on a fait le tour, là. Mais vous me dites, le chantier, c'est quand exactement, juste pour finir?
Le sommet des chantiers, oui. On l'a annoncé pour ce printemps.
OK. Merci, Mme Thuillier.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Émilie Thuillier, la mairesse de l'arrondissement Hantique-Cartierville. I rest my case, là. Je vous le dis, ce que je pense depuis le début, c'est pas gérable. C'est pas faisable. Ils essaient de nous faire croire qu'ils font des patentes pour que... Mais ça n'arrivera pas. C'est une ville à reconstruire par des infrastructures quand même, donc des travaux majeurs. Puis en plus, tu veux développer les chantiers privés. Bon, ben, je veux dire... let's face it, là, comme disent... ça n'arrivera pas. Le discours, c'est qu'ils se réunissent pour en parler. Là, les comptes sont trop gros, OK? Là, c'est le même TQ. Rappelez-vous les vaches. Quand tout le monde se promenait, là, puis se passait à la responsabilité entre le ministère, c'est pareil. Puis finalement, les vaches sont venues un peu tout seules. Liste au CHUM et présidente fondatrice d'aux trois sentiers, donc soins palliatifs. Alors, comme elle le dit, le problème, c'est que le patient n'est pas à bonne place. Puis il aurait fallu qu'il soit ailleurs. Idéalement chez lui, mais en tout cas pas là où, dans le cas de Mme Simard, elle est décédée.
L'essentiel de Paul Arcand.
Avec nous, la nouvelle présidente de la FTQ, Magali Picard. Madame Picard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Première femme présidente de la FTQ, c'est quand même quelque chose, là.
Ah, écoutez, c'est quelque chose. Il était temps, on se le cachera pas. Hein. La FTQ existe depuis 1957, mais c'est tout un honneur. Je vais être franche avec vous, là, c'est un plafond de verre, puis... lorsqu'on est la personne qui brise ces plafonds-là, ça vient avec des grandes responsabilités. Alors, je peux-tu vous dire là que ma volonté de réussir, elle est là. J'ai envie de changer les choses, changer les approches. Dans le fond, amener mes couleurs.
Qu'est-ce qui doit être changé? C'est quoi le changement de culture que vous voulez faire?
Ouais, c'est drôle parce que moi, je suis extrêmement fière. Si j'ai décidé de m'investir à la FTQ, c'est que j'aime la FTQ, j'aime ses valeurs, j'aime son approche. Ceci étant dit, j'ai vraiment envie, dans ce que j'ai envie de changer, ni plus ni moins, c'est le rapport entre les affiliés, entre le milieu syndical. J'aimerais vraiment rapprocher les grands syndicats, les centrales, pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous savez, là, en 2023, le Québec est en crise actuellement, là, et les défis sont plus grands que le nom qu'on porte, en ce qui me concerne.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, vous savez, on n'a plus le loisir de chicaner entre nous. On n'est pas dans ces années où l'inflation avait un taux qui était respectable, où on pouvait négocier des contrats de travail d'égal à égal. On revient en arrière présentement, là. Avec le télétravail, on le voit, la loi actuelle sur la loi anti-briseur de grève fait en sorte qu'il y a une grande facilité actuellement pour les employeurs d'avoir des travailleurs à domicile qu'on voit pas et qui viennent porter main forte aux employeurs alors que nos gens sont dans la rue puis qui essaient de se battre pour avoir des conditions d'emploi.
Mais vous voulez quoi, bâtir un gros front commun permanent?
Ben oui, ça serait intéressant. Moi, je peux vous dire que ça peut se faire rapidement également. Je regarde le premier ministre actuellement, je regarde le gouvernement de la CAQ. Vraiment, je le dis et je le pense, je les trouve très arrogants. Gère le Québec comme s'il y avait l'aval de la grande majorité de la population. C'est pas le cas. Oui, ils ont beaucoup de députés, là, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même 59% des Québécois qui n'ont pas voté pour ce gouvernement-là. On les entend pas, ils ne portent pas attention aux travailleurs travailleuses, à toute la collectivité. Donc, notre intention, mon intention, c'est vraiment de faire en sorte
qu'on
se lève
debout. Mais quand vous dites qu'ils ne portent pas attention aux travailleurs, là,
oui.
Donnez-moi des exemples de ça.
Ben écoutez, on est en plein front commun actuellement. Là. On offre à nos gens dans le réseau scolaire, nos gens dans les hôpitaux, vraiment les cols bleus, les cols blancs, offre à ces gens-là, ben les cols bleus, les cols blancs, oui, effectivement, il y en a. Ils offrent à ces gens-là présentement des augmentations de 9% sur 5 ans. Monsieur Arcand, c'est complètement ridicule. Par même temps, ce gouvernement-là est capable d'offrir à leurs hauts fonctionnaires des augmentations, là, ça vient d'être annoncé, jusqu'à 20% pour une année. Vraiment, on parle des deux côtés de la bouche, on est en pleine inflation. Les gens qui travaillent à temps complet, les familles, ont besoin d'aller chercher des aliments dans les banques alimentaires, une augmentation de 20% depuis l'année passée. Tout ça parle, mais on dirait que ce gouvernement-là réagit pas. On vient de voir
mais
l'augmentation.
Il y a eu quand même des augmentations dans la dernière ronde de négo pour certains.
Oui,
on pense aux infirmières, on pense aux profs également.
Oui,
là, bon,
oui.
des gens qui ont eu des augmentations plus importantes, plutôt que la fameuse règle générale de voici l'augmentation pour tout le monde.
Ouais. Ben ça me dérange également, parce que ce que fait ce gouvernement-là, c'est qu'il utilise dans le fond, il négocie d'un sur la place publique, et de deux, vont offrir des augmentations salariales à des corps de métiers qui, dans la population, nous apparaissent comme étant les plus importants.
Mais hein? Là où on manque de monde aussi.
Aussi, mais c'est pas une façon, parce qu'il y a du manque du monde partout, malheureusement, c'est la situation. Dans nos écoles, c'est assez incroyable. Mon fils a 16 ans, lorsque un professeur est absent, c'est un homme qui a une compagnie de construction qui vient faire l'heure de garde pendant ce temps-là, c'est assez invraisemblable. C'est à tous les niveaux qu'il manque des gens. Et vraiment, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent les catégories d'emploi et vont, bien sûr, donner des augmentations à ceux pour qui ils pourraient avoir une très mauvaise presse publiquement, alors que dans les faits, ce travail d'équipe. Il n'y a pas un corps de travail, il n'y a pas un statut, il n'y a pas un travailleur qui est moins important qu'un autre. Alors, ils sont très, très durs et c'est ce que ça crée. Ça crée
mais il n'y a pas aussi, j'allais dire, une certaine forme de rigidité syndicale, des conventions collectives hyper détaillées, si tu tasses un crayon.
Ah, c'est plus vrai, ça.
Oh, Madame Picard, c'est plus vrai?
Honnêtement, je vous dirais qu'on est loin de là. Puis si vous regardez
non,
ce qui
est
demandé...
Non, mais même sur les horaires de travail, même ouais. Sur... puis là, récemment, on parlait de Maisonneuve Rosemont.
Ah oui, ça c'est fondant.
Bon, c'est compliqué, puis tout ça. Puis des infirmières qui... Je vous donne un exemple, là, puis c'est pas que ça dans votre syndicat, mais une infirmière qui prend sa retraite en décembre, qui, voyant ce qui se passe, décide de revenir, ben elle repart au bas de l'échelle. C'est pas ben ben tentant, parce que son syndicat dit « T'as quitté, ben tu reviens où t'étais, en bas. »
Moi, c'est pas les infirmières, effectivement, sont pas syndiquées chez nous. Mais ce que je peux vous dire... Je peux comprendre qu'un travailleur qui veut avoir de meilleures conditions voit quelqu'un qui a droit à la pleine retraite, qui est éligible à la pleine retraite, revenir au travail. Ça peut être difficile. Mais en même temps, on a besoin que les gens reviennent parce que oui, on a une pénurie d'emplois. Mais je pense pas que c'est en ne reconnaissant plus l'ancienneté ou en tout cas...
Non, je vous dis pas de tout sacrer par-dessus bord, non. Mais c'est quand même rigide.
Ben ouais, si on veut, mais moi je vais vous dire que je pense pas qu'on est assez rigide. La vérité.
Faudrait l'être plus.
Ben dans certains domaines, oui, avec certains employeurs, particulièrement avec le gouvernement du Québec, c'est assez invraisemblable ce qu'on a demandé à nos gens pendant la COVID. Et là maintenant, on change les conditions d'emploi, on ne respecte pas les horaires de travail. Il y a un gros chaos actuellement là. Donc moi je vous dis, je parlerai pas de rigidité.
Mais
je
à part la santé puis l'éducation donne-moi des exemples.
Ah ben là écoutez, il y en a partout. C'est on parle pas de santé, on parle pas d'éducation, dans n'importe quel milieu d'emploi actuellement, les employeurs se vantent haut et fort, font une propagande en disant bon mais les jeunes ne veulent plus de sécurité d'emploi. Hein, nous on a toujours milité pour que les gens aient une sécurité d'emploi, qu'il y ait des bénéfices, qu'il y ait des régimes de pension et là il y a une vague là de la part des employeurs en disant ils en veulent plus, les jeunes ne veulent pas ça. Ce que veulent les jeunes, c'est être capable d'avoir de la liberté. Ils ont beaucoup d'aspirations, veulent changer. Mais moi, je sais pas à quel jeune ils parlent. Mais moi, quand je parle aux jeunes, ce qu'ils me disent, on veut une sécurité d'emploi, on veut avoir des bénéfices dans notre travail, on veut un régime de pension. Et là, parallèlement à ça, les mêmes employeurs nous disent, bon, mais les gens ont un problème de rétention, il y a une pénurie de la main-d'œuvre, mais on leur offre rien d'intéressant. Les conditions d'emploi sont épouvantables. On s'engage plus comme employeur à prendre soin de ces employés-là, ce qui fait que la rétention est extrêmement difficile.
Ouais, mais en même temps, ils ont un choix assez incroyable. Ils peuvent quitter le vendredi puis facilement se trouver une job le lundi matin ailleurs. Moi, ce que j'entends, puis je lis beaucoup mes auditeurs, mes auditrices qui sont des... Bon. Puis c'est vrai que quand t'as 20 ans, la sécurité d'emploi, c'est peut-être moins majeur dans ta vie. Puis t'as peut-être le goût d'avoir la semaine de 4 jours plus. Puis t'as peut-être le goût d'avoir un boni quelque part. C'est peut-être pas les mêmes priorités qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
Ben, vous pensez ça? Ben, je vais être honnête avec vous, on sort d'un congrès, là. Puis ce qui a été merveilleux, c'est qu'on a constaté, parce que ça a été demandé, Daniel l'a demandé, le tiers... des délégués au Congrès étaient présents pour leur première fois, participaient pour la première fois. On a eu des commissions où on a parlé justement des attentes, des espoirs, ce qu'on veut changer. Et là, je vous dis, là, c'est ce qui est ressorti. Et ça, c'est par les nouveaux. Alors moi, je crois sincèrement qu'il n'y a pas de dialogue actuellement entre la relève. Puis quand vous dites, oui, ils peuvent avoir un autre emploi le lundi, ce que je vois plutôt, là, c'est des travailleurs, jeunes travailleurs, qui doivent avoir 2 et 3 emplois pour être capables d'avoir un salaire décent. Donc, c'est tout ça qui nous parle. Le salaire minimum... Monsieur Arcan, 15 et 25 $ aujourd'hui, moi, là, notre premier ministre a reconnu au Parlement qu'on pouvait pas vivre dans la dignité au Québec avec un salaire de 18 $ Et là, on nous annonce comme une grande nouvelle qu'on a augmenté d'$1 à 15 et 25. Donc, ce gouvernement-là reconnaît et accepte qu'on garde des gens dans la misère et qu'on encourage ça.
OK. En terminant.
Oui.
Avez-vous reçu les félicitations de Rimbaud?
Oh non, vous êtes drôle. Non. Mais non, mais vous savez, là, je m'attendais pas à cette question-là, vous me faites tellement rire.
Ce sont les meilleurs.
Oui, effectivement. Non, pas de félicitations, mais beaucoup de félicitations toutefois de la FTQ Construction, un syndicat que j'adore. Il y a eu des moments difficiles, il y a bien entendu des choses qui ont dû envers des individus être traitées. Ce que j'entends, c'est qu'on est
rendu... Quand vous le voyez, Rambo, sur Facebook, comment vous réagissez?
Écoutez, Rambo, je pense que dans sa région, a été capable de se créer une notoriété. J'espère que ce n'est que pour des bonnes raisons. Mais en ce qui me concerne, vous savez, là, je le connais pas personnellement. C'est un militant syndical. J'aurais peut-être la chance de le rencontrer. Chose certaine, c'est pas un ami personnel. Là, donc, il y a toutes sortes d'approches. C'est comme un peu partout. Donc, oui.
Merci d'être venu ce matin.
Vous êtes vraiment gentil. Merci.
Magali Picard est la nouvelle présidente de la FTQ.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a appris hier que l'acteur américain Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire. On se souvient de ce qui s'est passé. Plateau de tournage en 2021, le film Rust. Et il avait une arme, il a tiré. Sauf qu'il y avait une vraie balle dans l'arme en question. Et la directrice photo est morte de ses blessures. Et là, on a tous été un peu étonnés. Et j'entendais hier la procureure dire, Baldwin avait la responsabilité de vérifier si l'arme était il y avait de vraies munitions à l'intérieur ou des balles à blanc. J'en parle avec l'avocat criminaliste Jean-Pierre Ancourt. Maître Ancourt, bonjour.
Bonjour à vous.
D'abord, j'avoue, moi-même, j'ai été un peu étonné en me disant, je suis l'acteur, quelqu'un de l'équipe vient me porter une arme, je tire, malheureusement, je blesse ou je tue quelqu'un. En quoi je suis responsable?
Ouais, c'est ça. Moi, je soupçonne qu'on connaît pas toute la preuve là-dedans. Parce que si on suit simplement son témoignage à lui, l'armurière qui est en charge de ça lui remet l'arme, donc il pense que tout est correct. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une vraie balle. Sauf que la preuve, je soupçonne, va démontrer que il savait qu'il y avait des vraies balles sur les lieux et même que possiblement qu'il ait pratiqué avec l'arme sur des cibles avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, si on sait qu'il y a des vraies balles, ben le dernier qui va utiliser le revolver doit être encore plus prudent. Alors, on va et probablement qu'il y a des gens qui ont fait des témoignages là-dedans, les co-accusés, par exemple, ou d'autres, pour venir dire comment ils savaient que ça pouvait être dangereux. Parce que quand on parle d'homicide involontaire, on n'a pas l'intention de tuer quelqu'un, mais on commet un geste sachant que ça peut être dangereux puis ça peut causer la mort. Donc, c'est ça que la procureure va vouloir démontrer.
OK. J'allais vous dire, le fait qu'on ait, par exemple, là, puis on est dans la spéculation, mais quand même, qu'on ait utilisé l'arme, qu'on ait fait des pratiques de tir, donc la présence de balles réelles sur le plateau, c'est assez pour dire qu'il avait une responsabilité pour vérifier son arme au moment du tournage?
Ça pourrait, parce que il y a une théorie qui dit que le willful blindness, hein, l'aveuglement volontaire, quand on dit « moi, j'ai pas vérifié parce que je me suis fié aux autres », oui, mais vous saviez qu'il y avait des vraies balles sur les lieux. Et là où il a fait une erreur, je pense, c'est de venir dire dans les médias qu'il n'a jamais actionné la gâchette. Alors, tout le monde dit, les experts, un revolver, ça part pas tout seul. Alors, il voulait se faire une défense à l'avance. Ça va lui nuire. Mais moi, je soupçonne, comme je vous disais, qu'il y a des gens qui témoignent là-dedans, qui vont venir dire probablement qu'ils savaient très bien qu'il y avait un danger parce que on avait utilisé ces balles-là. De quelle façon, je ne sais pas ce qu'on avait pratiqué. Mais il y avait une responsabilité. Ben, ça peut être une négligence criminelle aussi.
Parce qu'en principe, il n'est pas supposé y avoir de vraies balles sur un plateau de tournage. J'entends ça depuis le début de cette histoire-là. Là, c'est comme
absolument. Donc, quand on va prouver que tout le monde savait qu'il y en avait, qu'on avait pratiqué, mais si on a pratiqué, par exemple, dans les heures qui ont précédé l'accident, ben, c'est un fait aggravant pour dire, ben, écoutez, monsieur, vous avez été négligent parce que vous aviez un arme dans les mains, vous saviez qu'il y avait des vraies balles sur les lieux. Alors vous deviez, c'était le dernier, là, la dernière personne à vérifier l'arme, vous aviez dû le faire.
Merci, Maître Ancourt. Bonne journée.
Merci, bonne
journée. Au revoir, Maître Jean-Pierre Ancourt, avocat criminaliste. Ça va être à suivre quand même.
C'est 23.